Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce matin, notre invité étant Antonin Mahé, il est conseiller municipal de Paimpol. Il est également animateur fédéral des jeunes socialistes des Côtes d'Armor. Il est avec nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Antonin Mahé. L'affaire Quatennens qui empoisonne la gauche le Parti Socialiste, en tout cas par la voix d'Olivier Faure, qui demande qu'Adrien Quatennens ne revienne plus à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut laisser la justice passer? Quelle est votre position là-dessus?
Alors le Parti Socialiste a une position qui est aussi la mienne, hein, donc c'est-à-dire de dire que nous croyons évidemment Céline Quatennens dans ce qu'elle peut dire, hein, notamment la lettre qui est parue hier dans les médias. Et en attendant que la justice tranche, évidemment, Adrien Quatennens ne peut pas revenir sur les bancs de l'Assemblée nationale. Après, je ne suis pas juge, ce sera la justice de jouer son rôle. Mais c'est vrai que moi, ça me semble pas possible que Adrien Quatennens revienne sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Sans juger le fond de l'affaire, évidemment, hein, comme vous le dites, hein, la justice doit passer. Au niveau politique, c'est un mauvais coup pour la NUPES.
C'est un mauvais coup pour LFI, surtout, je pense, parce que au Parti Socialiste, nous avons toujours eu une position extrêmement claire sur les violences sexistes et sexuelles, que nous remettons là une nouvelle fois sur le devant de la scène. Notre position, nous, elle est extrêmement claire, c'est qu'Adrien Quatennens ne peut pas revenir à l'Assemblée nationale et que la justice doit désormais passer.
On va parler de politique, un peu plus politicienne maintenant, avec Antonin Mahé, ce 80e congrès du PS. 80e congrès, beaucoup de contributions pour ce congrès. Est-ce qu'on est à un tournant du PS, à un tournant de son histoire? Il y a eu beaucoup de tangages, on l'a dit, hein, ces derniers temps. On en avait parlé également au micro de la matinale. Le PS qui semble se raffermir un petit peu dans ses positions.
Alors, effectivement, c'est le mot raffermir qui me fait un peu rire, mais c'est vrai que le congrès de Marseille, là, c'est un tournant pour notre parti, hein, le premier depuis la NUP, depuis notre pire score à l'élection présidentielle, hein, 1,72%. Je le dis parce que je pense que c'est aussi important qu'on le garde en tête, hein, ce score-là, le pire de toute l'histoire du Parti Socialiste, un score beaucoup mieux avec l'Union, évidemment. J'étais venu déjà de nombreuses fois depuis le lancement de l'élection présidentielle pour dire dès le départ qu'il fallait l'Union, et on a vu ce que ça donnait l'Union. Moi, je suis plutôt content du résultat.
Quand la gauche est unie, finalement, elle gagne.
Quand la gauche est unie, elle gagne. On pourrait même presque dire, pour gagner, il faut être unie à gauche. On ne gagne pas à gauche sans l'Union. Et c'est vrai que là, bon, c'est vrai qu'on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais enfin, je prends simplement sur le camp socialiste. On a 28 députés en 2017, on en a aujourd'hui 31. C'est-à-dire qu'on augmente notre nombre de députés avec un score à la présidentielle qui est quand même proche de zéro. Et on double le nombre de députés de gauche à l'Assemblée nationale. Donc, si ça, c'est déjà pas une victoire, je suis désolé, moi je comprends pas les gens qui nous disent, certains au Parti Socialiste, pour gagner, il suffit grosso modo d'être fier d'être socialiste. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, une élection. Je veux dire, il suffit pas d'être fier pour gagner. Pour gagner, il faut travailler, il faut surtout être unis à gauche.
Alors, ce 80e congrès du Parti Socialiste va déboucher sur des propositions. On voit aujourd'hui un contexte très particulier avec la guerre en Ukraine. On va en parler dans un instant, mais également un contexte social très dur. Hein. On a les conséquences de cette guerre. On a aussi les conséquences de l'inflation, des problèmes d'approvisionnement énergétique, le panier de la ménagère qui ne s'améliore pas. On met beaucoup d'argent, mais on n'a pas forcément un caddie bien rempli. Est-ce que le Parti Socialiste en particulier, la gauche plus généralement, va devoir s'emparer de ces problèmes sociaux, j'allais presque dire revenir aux fondamentaux?
Alors, effectivement, moi aussi, je vais faire mes courses dans les magasins, donc je me rends bien compte qu'il y a un problème quelque part, hein, puisqu'on a beau continuer à mettre plus d'argent, il y a toujours la même chose dans le panier. Donc, bon, c'est problématique. Maintenant, le PS doit redevenir, je le dis ici, le parti des travailleurs, doit se réemparer de tous les problèmes sociaux que peuvent connaître les Français, c'est-à-dire le chômage, le fait qu'à la fin du mois, bah, il n'y a plus rien. Enfin, à la fin du mois, je suis gentil, parce que c'est plutôt le 15 en réalité qu'il n'y a plus grand-chose.
On entend beaucoup d'ailleurs de témoignages de personnes qui disent au 10, au 15 du mois, je n'ai plus rien sur mon compte en banque.
Ah ben, bien sûr, mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, on a une inflation qui est extrêmement importante, 6%, je crois, hein, dans mes souvenirs. Et en même temps, des salaires qui ne prennent pas 6%. Donc, il y a un problème, c'est-à-dire que tout continue à augmenter, mais les salaires, eux, n'augmentent pas, ce qui est quand même ahurissant. Je prends le SMIC, il n'augmente pas. Je prends les bourses, ça n'augmente que très peu. Enfin, le SMIC augmente, mais vraiment très légèrement. Les bourses, 4%, alors que l'inflation est déjà à 6%. Je veux dire, il faudrait arrêter de se moquer du monde, quoi.
Avec une colère sourde, hein, quand on voit la rémunération, par exemple, des patrons des grandes entreprises françaises, alors qu'ils se défendent en disant « Oui, mais on n'est pas les mieux payés, regardez aux États-Unis, par exemple. » Mais là, on est sur des sommes astronomiques pour monsieur, madame, tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où la politique va devoir s'emparer de cette question et demander un meilleur équilibre sous peine de voir des problèmes sociaux plus graves ?
Moi, quand je vois le salaire, notamment du patron de Total Energy, je ne peux que être choqué. Quand je vois le SMIC en France, par rapport à ce salaire-là, je me dis, mais vraiment, c'est honteux, quoi. C'est honteux de prendre autant, alors qu'on est dans une crise économique, on traverse une crise qui est extrêmement dure pour les particuliers. Je pense aussi aux associations pour lesquelles c'est extrêmement difficile, pour les collectivités aussi en tant qu'élu, c'est extrêmement difficile. Hein, on ne sait pas comment on va boucler nos budgets. Mais donc, c'est vrai que quand je vois ces salaires-là, moi, ça me choque. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il va falloir, et le Parti Socialiste l'a proposé, hein, initialement, c'est la taxation des super-profits. Mmh. Il va falloir que cette mesure soit mise en place, parce que sinon, les gens vont continuer à s'énerver. Et là, on a une tension sociale, et je pense que vous le remarquez aussi, qui est énorme. Les gens sont tous tendus, et il va falloir trouver une solution rapidement, parce que sinon, on s'approche d'une crise des Gilets jaunes 2. Quoi.
Alors, il y a une grande colère, hein, dans la société. Les journalistes, nous, on la mesure, cette colère aussi, on la reçoit parfois même. Aujourd'hui, on a l'impression que bien les gens ne croient plus à la politique. On nous dit, on ne peut pas nous protéger, on ne peut pas nous aider. Là aussi, il va y avoir un grand travail à refaire pour pouvoir convaincre, pour pouvoir dire, oui, on est là, on vous protège.
Mais alors, c'est vrai que si on regarde ce que fait le président de la République, moi, je comprends que les gens n'aient plus envie de s'intéresser à la politique, hein, parce que bon, quand on décide tout seul, c'est compliqué pour monsieur, madame, tout le monde de s'intéresser à la politique derrière. Il va falloir qu'on retourne chercher les citoyens, qu'on aille les voir, voir ce qui ne va pas dans leur quotidien, même si nous aussi on le vit. Enfin, moi, je veux dire, je suis pas ministre, hein, donc donc je sais très bien ce que c'est qu'à la fin du mois, il n'y ait plus rien sur le compte en banque.
On fait une petite parenthèse. Vous étiez venu il y a quelques semaines au micro de Bretagne 5 pour nous parler de la précarité étudiante qui continue de galoper. Cette précarité étudiante, précarité qui gagne aussi toutes les strates de la société, en tout cas pour les personnes les plus fragiles, les plus modestes. Alors, on ne parle même pas des coûts de l'énergie, où certains Français cet hiver ne se chaufferont pas. Voilà, on sortira la doudoune pour ceux qui en ont une, ne vont pas se chauffer, ne pourront pas isoler leur logement. On parle d'une crise sociale, la crise devient très profonde.
Alors effectivement, moi, si je prends le sujet des étudiants, hein, que je connais le mieux puisque j'en suis aussi un, j'étais venu il y a quelques semaines, c'est vrai, parler de la précarité et de ce que faisait le CROUS, hein, qui est donc l'organisme chargé de toute la politique sociale envers les étudiants. Écoutez, moi, je constate pas d'amélioration, ni même quelconque écoute de la part du CROUS Rennes-Bretagne, qui continue à s'enfermer dans un silence qui est quand même ahurissant. Enfin, aucune nouvelle sur la fermeture de la résidence Guernéguin à Saint-Brieuc.
On en avait parlé, effectivement.
Les restaurants universitaires, ça n'a pas changé, en fait, réellement. Hein. On nous avait promis de belles et grandes mesures, mais rien sur le terrain. Donc, C'est vrai qu'en plus, quand on est dans une précarité quasiment généralisée, comme peuvent l'être les étudiants, que notre organisme social de référence ne daigne pas à nous donner de réponse, c'est extrêmement fatigant. C'est-à-dire, quand un étudiant ne chauffe pas, ne mange pas 2 repas par jour parce que il n'a pas les moyens ou que ses parents ne peuvent pas l'aider, quand l'organisme qui est censé à ce moment-là arriver et dire on va pouvoir, tu vas pouvoir te chauffer, tu vas pouvoir manger 2 repas par jour, n'est pas présent, je me dis mais ce pays, mais ça c'est
La France ne fonctionne plus de votre point de vue, ou mal?
Certaines administrations de la France fonctionnent mal. Non pas par leurs fonctionnaires, que j'ai pas de problème là-dessus, mais simplement par leur direction et par les politiques gouvernementales qui sont impulsées auprès de ces administrations.
On voit les associations caritatives qui lancent leur campagne. On pense aux Restos du Cœur qui viennent de lancer leur campagne et qui tirent la sonnette d'alarme. Toutes les associations, on pourrait également citer le Secours catholique ou le Secours populaire qui disent « Attention, on a de plus en plus de bénéficiaires et ce n'est plus des gens qui sont à la rue. Forcément, ce sont des gens qui n'arrivent plus à manger, qui n'arrivent plus à se chauffer, qui sont obligés de venir chercher l'aide de ces associations. » Qui elles-mêmes sont en grande difficulté parce qu'elles n'arrivent pas à avoir de dons suffisants pour satisfaire tout le monde. Est-ce que là, il est temps vraiment de tirer la sonnette d'alarme ?
Ah bah oui, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que là, on rentre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que les associations de distribution alimentaire, notamment les Restos du Cœur, fonctionnent beaucoup avec les dons. Mais en même temps, les gens, les salaires n'augmentent pas, donc ils ne peuvent pas donner. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, le Restos du Cœur va avoir aussi du mal à distribuer l'aide alimentaire. Et on est vraiment dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas donner parce que les salaires sont trop hauts. En même temps, ils ne peuvent pas s'acheter à manger correctement. Ce qui fait qu'on va avoir rapidement un problème, je pense.
Voilà, ça nous ramène à Coluche, le fondateur des Restos du Cœur, qui disait « Oh là, il y en a pour aller 2-3 ans, après ça ira mieux. »
Malheureusement, non.
La question se pose bien longtemps après.
Je rêverais d'un monde, moi, sans Restos du Cœur, en disant que tout le monde pourrait avoir à manger dans son assiette correctement.
On a aussi un corollaire, c'est l'accueil sur notre sol des migrants ou des réfugiés. Je préfère personnellement le terme réfugié. On l'a vu avec ce bateau qui est arrivé ici en France, qui a été accueilli en France, avec beaucoup de jeunes migrants à bord, de jeunes réfugiés à bord qui ont souhaité, eux, gagner d'autres parties de l'Europe. Et on voit aussi une cristallisation de la colère vis-à-vis de ces personnes qui arrivent en disant « on n'a pas de place pour les Français, pourquoi encore accueillir plus ?» Est-ce que là aussi, il va falloir tirer une autre sonnette d'alarme d'une société qui devient, on va dire, peut-être plus intolérante ?
Je ne pense pas que la société devienne plus, intolérante, pardon, je ne trouvais plus le mot. Je pense surtout qu'une partie du paysage politique français, notamment à l'extrême droite, donc le FN et Reconquête d'Éric Zemmour, cristallise ces sujets-là pour faire peur aux gens, alors qu'on parle quand même d'êtres humains. Pour rappel, ce sont des gens qui ont fui leur pays parce que c'était la misère, parce que c'est un régime autoritaire, ou bien parce que même c'est la guerre. Et en fait, jouer avec les peurs des Français sur le sujet migratoire, moi je trouve ça minable. Je veux dire, c'est ce que je dis, on parle de gens qui n'ont plus rien, des gens qui peuvent se faire tuer dans leur pays, des gens qui fuient la guerre, et on viendrait nous dire qu'il faut les renvoyer chez eux. Non mais à un moment donné, il faut juste arrêter de dire n'importe quoi, ce que fait le FN de toute manière tous les jours, puisque chaque prise de parole de ce parti, c'est un ramassis de conneries. Il faut à un moment donné aussi dire les choses. Ce que dit le FN joue sur la peur des gens sans cesse, c'est insupportable. Joue sur la peur de perdre notre culture, alors que je pense pas perdre notre culture, on va toujours continuer à manger de la raclette en hiver, à mon avis. Joue sur la peur d'accueillir des migrants, alors qu'on devrait les accueillir, parce que c'est le principe d'humanité. On devrait accueillir ces gens-là. Et c'est normal.
On l'a vu, la colère se cristalliser à Calac, par exemple, avec cette contre-manifestation ou cette manifestation contre la venue des réfugiés dans le cadre du projet Horizon.
Alors moi d'abord, sur le sujet de Calac, moi j'étais aux deux manifestations qui étaient organisées à Calac. D'abord un mot de soutien pour le maire, parce qu'il vit quelque chose qui n'est vraiment pas agréable pour un élu local, un harcèlement. Enfin,
il a reçu des menaces de mort, concrètement.
Vraiment, pour commencer, je lui adresse tout mon soutien parce qu'il vit quelque chose qui est insupportable pour un élu local. Je rappelle quand même qu'un élu, c'est le principe, il est élu. Donc, il mène les politiques pour lesquelles il a été élu. C'est le principe. Maintenant, sur le sujet Kallak en lui-même, on est dans le même principe. On a, d'un côté, alors on parle d'accueillir... l'extrême droite nous indique 70 familles, je crois. Alors qu'on parle d'une dizaine de personnes, en réalité, sur Kallak. Voilà, je veux dire que Kallak, ça ne fait pas 100 habitants. Donc, accueillir 10 personnes, à mon avis, ça ne changerait pas grand-chose. Maintenant que l'extrême droite vienne de tout le pays, parce qu'il faut dire, à la dernière manifestation, moi j'ai vu des bus arriver de beaucoup de départements qui sont quand même assez éloignés, qu'on ait des personnalités de reconquête qui viennent à Kallak faire leur beurre sur des situations toujours dramatiques, c'est vraiment zéro, quoi. Mmh. Mais bon, ce sont les méthodes de l'extrême droite, c'est pas nouveau, et on est habitué maintenant à ce genre de méthodes populistes.
Alors, je parlais tout à l'heure d'une société, alors peut-être moins tolérante, on va le dire comme ça, on a nos portes. On peut le dire même en Europe, cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas, qui se durcit avec, au moment où l'on se parle, des Ukrainiens, des Ukrainiennes qui ne peuvent plus se chauffer, qui sont terrorisés par les missiles, par les drones qui leur tombent sur la tête et qui tuent chaque jour. On a vu les images chez nos confrères des différentes chaînes de télévision, hier soir en particulier. Et puis en France, bien, il y a cette petite musique que l'on entend qui dit « oui, mais on a du mal, nous, à nous en sortir, on ne va pas aider en plus l'Ukraine », au moment même où le président Zelensky a demandé au maire de France, qui était réuni en congrès hier en particulier, de donner un coup de main directement aux Ukrainiens qui en ont tant besoin pour se chauffer, pour pouvoir simplement vivre. Là aussi, on entend cette petite musique du « on a du mal chez nous, on ne va pas aider les autres ».
Ce que vit l'Ukraine actuellement, c'est dramatique. On a, pour rappel, un pays qui est un pays autoritaire, une dictature même, je pense qu'on peut le dire clairement, qui vient attaquer une démocratie européenne sous le motif de dénazification. C'est quand même assez gros quand on est russe et donc quand on a un président d'extrême droite. On a un pays donc agresseur qui a décidé de refaire la grande Russie, la Russie soviétique. Mais personne n'a pensé à prévenir Poutine que ça ne se fera pas. Ça n'existera plus jamais.
Avec quand même autour de Poutine des gens,
des gens
peu recommandables.
Des gens extrêmement peu recommandables. Enfin, je pense au patron de la milice Wagner notamment. Enfin, on est dans une guerre sale, je pense, où on bombarde tout ce qu'on peut, où on rase tout ce qu'on peut, des hôpitaux, des écoles, tout ce qui peut être rasé est rasé par les Russes, ce qui est quand même dramatique.
Une forme de politique d'interbrûlé, finalement.
Bien sûr. Hier soir, pour préparer l'émission, pour la petite anecdote, j'écoutais BFM TV et intervenait le vice-président de la Douma, hier sur BFM TV, pendant environ 20 minutes, où il a pu tenir des propos du style « si on n'arrive pas à reprendre du terrain, on va tout raser sur des dizaines de kilomètres, vous allez payer, vous la France, vous allez payer ». Enfin, je me dis, mais ces gens sont complètement timbrés. Pour être très honnête, moi je pense qu'ils ont vraiment un problème mental grave.
C'est une guerre finalement qui va au-delà de l'Ukraine. Elle vient vers nous, c'est une guerre vers l'Occident.
Mais c'est pour ça aussi que quand les gens disent « Ah, c'est loin, on n'arrive déjà pas chez nous », mais si la Russie arrive sur l'Ukraine, quel sera le prochain pays ? La Pologne, l'Allemagne, et ensuite c'est nous déjà. Mm-hmm. C'est nous déjà.
Déjà la Finlande craint pour ses frontières.
Bien sûr. Donc je veux dire, la Russie, si elle arrive en Ukraine, elle ne s'arrêtera pas. Elle continuera à envahir, à tuer, puisque là, on parle quand même de centaines de milliers de morts, dont des enfants. Enfin, je pense à la maternité qui a été bombardée par les Russes hier, un nouveau-né qui est mort quand même. Enfin,
deux jours, voilà. Il avait le petit garçon, la petite fille, on a pas
su. Mais c'est ce que je dis, on est vraiment dans une guerre qui est extrêmement sale, où il n'y a même pas de principe, où il n'y a même pas de... Parce que bon, une guerre, c'est évidemment toujours pas très agréable, mais... Il y a des guerres où c'est un peu moins violent que ce qui se passe en Ukraine.
Là, on est en dehors des lois de la guerre,
bien sûr,
finalement.
C'est ça, parce que la guerre, comme tout, elle est réglementée dans le monde. Là, la réglementation, elle est partie à la poubelle depuis un bon moment. On fait tout ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment, Mais bon, je pense aussi que les sanctions que nous avons imposées à la Russie, elles vont être dures, c'est sûr, hein, cet hiver, le gaz notamment, enfin, ça va pas être forcément extrêmement simple, mais elles sont nécessaires parce que ce pays, la Russie, doit couler économiquement pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne tiendront pas. Et ça se voit d'ailleurs parce qu'ils commencent à reculer. Enfin, il y a plusieurs localités d'Ukraine qui ont été reprises par les Ukrainiens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
On pense à Kherson. C'est pas encore gagné, hein, comme l'on dit. Mais...
C'est pas encore gagné, mais ça avance quand même relativement vite maintenant. La Russie perd du terrain. La Russie n'arrive plus à financer cette guerre, n'arrive plus à financer du matériel pour aller se battre. Et donc moi, c'est pour ça que je suis persuadé qu'à un moment donné, la Russie devra céder. Alors, ou bien... Elle ne le fera pas en disant on va balancer une bombe. Est-ce que c'est la bonne solution? Je pense pas, parce qu'une bombe nucléaire balancée sur l'Ukraine, ça touche aussi la Russie et beaucoup de pays européens.
Et là, on entre dans un conflit mondial. Dire le mot Troisième Guerre mondiale.
Bien sûr, ce qui est un extrême danger pour tout le monde, pour nous d'abord, mais aussi pour la Russie, parce que si tous les pays du monde venaient à lui faire la guerre, on n'y passerait pas longtemps en Russie.
Voilà, puis on a quelques alliés de la Russie. Alors, on peut imaginer la Corée du Nord qui dispose de l'arme atomique aussi.
Il y a la Corée du Nord qui dispose de l'arme atomique, oui. Mais je pense à la Chine, notamment. La Chine qui n'est plus aussi proche de Vladimir Poutine que quand il a commencé la guerre. Et ça se sent.
Il y a l'Iran qui également connaît d'autres... On n'en a pas parlé, mais il y a une situation terrible aussi là-bas. En Iran, avec toute une jeunesse qui se lève contre la théocratie iranienne. On va en dire un mot parce que c'est peut-être un peu occulté par cette guerre en Ukraine pour des raisons peut-être aussi géographiques, mais on a aussi toute une jeunesse qui se lève là-bas pour dire voilà, on veut de la tolérance, on veut que les filles, les garçons, les jeunes et les moins jeunes bien sûr puissent vivre normalement sans risquer d'aller en prison pour son orientation sexuelle, pour son choix politique, pour son choix vestimentaire. Là aussi, l'Europe est trop timorée, selon vous, en tout cas l'Europe, ou en tout cas l'Occident, plus largement.
D'abord, sur l'Iran en lui-même, moi, je suis fier de voir la jeunesse iranienne qui se lève pour mettre à bas des dictatures.
Et qui paie cher, il y a des morts
chaque
jour aussi.
Évidemment, paie extrêmement cher. Ce combat, puisque effectivement il y a des morts tous les jours et des morts dans des conditions parfois extrêmement dures. Enfin, il y a de la torture. Voilà.
Ça nous ramène à la guerre en Ukraine, finalement.
Bien sûr, il y a des symétries. Mais tous les pays dictatoriaux du monde utilisent les mêmes techniques, notamment la torture. Bon, je ne vais pas dire que je suis surpris, parce que l'Iran, c'est une dictature et que c'est évident qu'il y a l'utilisation de la torture dans la très grande majorité des dictatures dans le monde, parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de justice, il n'y a rien du tout. Sur l'Iran, moi je pense qu'il va falloir... Parce que c'est vrai que moi je trouve que l'Europe est un petit peu molle sur l'Iran, en tout cas beaucoup plus molle que sur la question ukrainienne. Et je pense qu'il va falloir aussi aller aider ces Iraniennes et ces Iraniens qui se battent pour la liberté, qui se battent pour vivre dans un pays démocratique, dans un pays tolérant, où on ne finit pas en prison parce qu'on a dit que... la religion en place était mauvaise ou parce qu'on a dit qu'on était homosexuel. Voilà.
On voit aussi cet Occident qui peine à endiguer ces dictatures. Là, vous parliez de mollesse à l'instant, Antonin Mahé. De quel levier disposera-t-on une fois que tout ça se sera apaisé pour, au niveau historique, passer à autre chose? Apaisé. Il y a aussi en Russie des gens qui souffrent, une jeunesse aussi qui souffre, qui s'oppose, qui ne veut pas aller faire la guerre en Ukraine. Comment on arrivera, au titre de l'histoire, à passer, à aller outre?
Alors d'abord, sur la première partie de votre question, c'est vrai qu'en Russie, il y a beaucoup de jeunes qui veulent quitter le pays. Il suffit de voir le nombre de places d'avions qui sont prises depuis quelques semaines pour quitter la Russie. Le vice-président de la Douma, hier sur BFM TV, que j'écoutais raconter n'importe quoi, a quand même indiqué que ça n'allait pas au-delà de 100 000 personnes. En réalité, c'est plusieurs dizaines de centaines de milliers de personnes.
Qu'il tente d'ailleurs, la Russie, qu'elle tente d'empêcher de partir.
Oui, bien sûr, mais bon, on n'empêche jamais quelqu'un de quitter le pays, hein, même avec n'importe quelle mesure. Maintenant, sur l'après-guerre en Ukraine, sur l'après-mouvement en Iran, il y aura évidemment un temps de reconstruction politique. D'abord, en disant qu'il faut apaiser les tensions, il y aura un temps de reconstruction, je dirais, logistique, puisque quand on voit l'état de l'Ukraine aujourd'hui, c'est rasé, quoi. Enfin, voilà. Tout ça demandera beaucoup de temps, évidemment. Ça, c'est le prérequis. Enfin, je pense que le prérequis, c'est le temps. Le temps pour les gens de se réapproprier leur pays, de reconstruire et de se reconstruire aussi politiquement parlant, puisque bon, pour des pays qui n'ont jamais ou très peu connu la démocratie, enfin l'Iran, voilà, la Russie, n'en parlons pas, puisque la Russie n'a jamais vraiment connu une réelle démocratie. Hein. Tout ça demandera des dizaines d'années, je pense, pour que tout ça se mette en place. Ça prend du temps. Mais la démocratie, c'est du temps aussi.
Voilà, ça demandera aussi une politique européenne, française, diplomatique, importante. Un dernier mot, il nous reste une minute, me fait signe un autre réalisateur qui est intransigeant sur le temps qui passe. Antonin Mahé, on entendait tout à l'heure dans les différents rendez-vous d'information de la matinale parler du football et de parler du Qatar. Et là aussi, ça interroge politiquement le Qatar qui n'est pas spécialement un modèle de démocratie, il faut bien le dire. Est-ce que vous, personnellement, vous allez suivre le foot, vous suivez la Coupe du Monde ?
Non, je ne suivrai pas la Coupe du Monde. Là, je reprends la position des jeunes socialistes costa-ricains. Nous allons boycotter collectivement la Coupe du Monde parce qu'il est hors de question qu'on regarde une Coupe du Monde dans un pays d'abord qui n'a pas un très bon bilan écologique. Hein, je pense au stade climatisé notamment. Enfin, c'est quand même ahurissant.
Où les gens ont froid d'ailleurs.
Non, les gens ont froid, c'est quand même assez dingue. Hein. On parle du Qatar hein, en Moyen-Orient. Enfin, voilà, dans un pays où tous ces stades ont été construits sur des milliers de cadavres, pour parler un peu franchement, et où il y a une répression qui est quand même ahurissant envers notamment les personnes LGBT qui finissent en prison. Donc non, je ne regarderai pas la Coupe du Monde du Qatar parce que ça ne correspond pas du tout à mes valeurs. Et quand je vois les positions du capitaine de l'équipe de France aussi, bah, je suis choqué d'entendre de tels propos. Enfin, pendant sa conférence de presse, moi, ces propos-là, venant de mon équipe de France, je peux pas les entendre. Donc je n'irai même pas soutenir moi l'équipe de France, c'est clair.
C'est là-dessus que l'on va se quitter, Antonin Mahé, dans ce monde turbulent et où il y a tant à faire pour votre génération, la jeune génération qui arrive en politique. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin au micro de Bretagne 5 Matin. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci.
Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.